Mondial Sport sur RFI. Christophe Diremzian.
Bonsoir à tous, bienvenue dans le second Mondial Sport du week-end avec un menu copieux pour la demi-heure à venir. On va d'abord boucler évidemment la grande boucle avec Éric Chorin et Thomas de Saint-Léger, témoins du sacre officiel de Tadej Pogacar sur le Tour de France, 22 ans demain et désormais le plus jeune coureur à remporter l'épreuve depuis plus d'un siècle. L'Irlandais Sam Bennett s'est adjugé la dernière étape de gala sur les Champs-Élysées. Bilan final à suivre dans un instant. Liverpool taille patron, les Reds marquent les esprits dès le début de la saison de Première Ligue en allant gagner à Chelsea 2-0, faux départ pour Manchester United, battu par Crystal Palace. La Juventus Turin, elle, démarre mieux en Serie A. On s'intéressera aussi à la Liga, qui, elle, s'intéresse de plus en plus à l'Afrique et à ses fans du championnat espagnol. Elle pose ses pions un peu partout sur le continent pour y développer sa notoriété. Nous ferons un détour par la Floride pour les finales de conférence en NBA. Enfin, les amateurs français de MMA sont aux anges. La première grande soirée de la discipline mise sur pied depuis la légalisation de la discipline au début de l'année arrive bientôt. Ce sera le 10 octobre à Paris sous l'égide d'un des plus grands organisateurs américains, Bellator. Vous entendrez son vice-président chargé de l'Europe. Allez, un dernier effort pour nos deux courageux envoyés spéciaux sur le Tour de France, Éric Chorin, Thomas de Saint-Léger, bonsoir.
Bonsoir Christophe.
Le Tour de France cycliste qui s'est donc terminé ce soir sur la victoire de Tadej Pogacar au terme d'une 21e et dernière étape remportée au sprint par Sam Bennett. Eric, un sprint qui s'est déroulé sous vos yeux.
Oui, un sprint qui a couronné l'Irlandais Sam Bennett, le porteur du maillot vert, déjà vainqueur sur l'île de Ré, qui a su passer la montagne et attendre son heure pour doubler la mise en raflant l'étape la plus prisée des sprinteurs en devançant le champion du monde, le Danois Mats Pedersen, deuxième de la dernière étape comme il l'avait été de la première à Nice, troisième place pour Peter Sagan, le Slovaque, qui doit une nouvelle fois se contenter d'un accessit après avoir déjà cédé à Bennett un maillot vert qu'il a ramené cette fois à Paris sur les 8 derniers tours.
Sam Bennett, dernier vainqueur d'étape sur un tour 2020 qui a couronné donc Tadej Pogacar.
Ouais, une victoire que le jeune Slovène a soufflé à son aîné Primoz Roglic la veille de l'arrivée en frappant un grand coup à la planche des belles filles hier où il a mis presque 2 minutes dans la vue de son aîné et compatriote Primoz Roglic, ce qui fait de lui le plus jeune vainqueur du tour depuis 1904. Il aura 22 ans demain, de quoi plaire bien sûr au directeur du Tour, Christian Prudhomme.
Il a fini 3e du Tour d'Espagne en septembre dernier, le mois de septembre lui réussit bien manifestement, mais voir effectivement un coureur quasiment seul, bon c'est pas bien ce que je dis parce qu'il a évidemment une équipe, enfin en tout cas une équipe très inférieure à celle qui a écrasé le Tour, qui l'a cadenassé, voir qu'au dernier moment un jeune gars pétri de talent comme ça surgit, ça fait une sacrée surprise. La dernière fois qu'il y a eu, à la veille de l'arrivée dans le dernier contre-la-montre, un changement, c'était en 2011 à Grenoble, avec Cadel Evans qui avait supplanté Andy Schleck, mais disons que là c'était, il y avait une logique, on savait que Cadel Evans, l'Australien, meilleur rouleur, devait reprendre du temps Andy Schleck, qui excellait dans la montagne, mais qui n'avait que de piètres performances contre la montre. Là franchement je n'imaginais pas ça, donc oui, il faut remonter à 10 ans en arrière. La référence que tout le monde a, c'est évidemment Greg LeMond et Laurent Fignon, les 8 secondes des Champs-Élysées en 1989. C'est un jeune coureur qui aura 22 ans lundi, qui bat un coureur de 30 ans. C'est un coureur sans équipe qui bat un coureur avec une armada qui a écrasé le Tour, cadenassé pendant 10 jours. Voilà, et la planche des belles filles confirme qu'elle choisit ses prétendants, sans aucun doute.
Côté français, en revanche, Eric, c'est un peu la déception.
Oui, un an après le Tour où Thibaut Pinot et Julien Alaphilippe ont fait rêver les Français, pratiquement pendant 3 semaines, l'édition 2020 a été beaucoup plus difficile. Abandon pour Bardet, Pinot hors du coup après sa chute dès le premier jour, mais 2 victoires d'étape quand même pour Alaphilippe et Nance Peter. Et un Guillaume Martin sur le podium la première semaine avant de reculer à la 11e place.
Ça se joue à peu de choses, à quelques chutes pour certains des fleurons du cyclisme français. Pour mon cas personnel, j'étais pas loin et je rivalisais avec les meilleurs sur la première partie de tour. J'ai rivalisé sur le Dauphiné puisque je termine 3e du général, Thibaut Pinot termine 2e. Donc je pense qu'il ne faut pas tirer de conclusion définitive de quelques semaines de course. Il y a des années fastes, il y a des années qui le sont un peu moins. Peut-être aussi qu'on a été avec l'an passé un peu trop habitué à viser vraiment les sommets. Il ne faut pas oublier que le cyclisme aujourd'hui est mondialisé et hyper professionnel, ce qui n'était pas forcément à l'ère des Thévenet, des Hinault. Tous les ans, on n'aura pas Julien Alaphilippe proche de gagner le Tour ou Thibaut Pinot proche de gagner le Tour, mais il y aura des années prochaines où ce sera à nouveau le cas. J'espère faire partie de cette génération-là.
Guillaume Martin qui a déjà gagné une place par rapport à l'année dernière. Quant à Benoît Cosnefroy, porteur du maillot à pois, pendant 15 jours, il retient surtout que ce Tour, reporté en septembre et qui n'aurait pu jamais partir, et bien aller jusqu'au bout.
C'est ce que je disais à mon collègue de chambre Oliver Nelson ce matin. J'ai dit voilà, c'était pas gagné qu'il y ait un Tour de France, c'était pas gagné qu'on aille au bout. Et ouais, on est forcément content de rejoindre Paris, même si c'est dans des conditions spéciales. On en est conscient, mais on est heureux que la fête ait eu lieu. Et voilà, je pense qu'il y a quand même eu de beaux spectacles avec des étapes animées et un rythme encore très élevé qui n'a pas déçu sur le Tour de France.
Benoît Cosnefroy évoque un rythme très élevé cette année. C'est aussi l'impression de beaucoup de coureurs et forcément, ça peut poser question. Thomas, vous étiez donc vous aussi sur la route de ce Tour 2020 qui est, c'est paradoxal, et pourtant l'un des plus lents de ces dernières années.
Oui, si on prend la vitesse moyenne du vainqueur, 39,8 km/h, c'est sensiblement moins rapide que l'an dernier, que les années précédentes en général. Alors, petit coup de frein dans le peloton, et bien pas vraiment cette baisse. S'explique aussi et surtout par le parcours très montagneux. Si on se penche sur les temps d'ascension des grands cols de ce tour, on s'aperçoit que plusieurs records ont été battus, et souvent par Tadej Pogacar, comme hier à la planche des Belles Filles.
Un gamin de 21 ans battant pour sa première participation au Tour de France de vieux records, datés parfois des années sombres, des années dopage. Ça étonne.
Pour ne pas dire autre chose, et c'est toujours pareil dans le cyclisme, un coureur qui domine devient un coureur suspect. Pogacar n'échappe pas à la règle. Il y a, il faut le dire, dans l'entourage du prodige, des personnalités sulfureuses comme Mauro Gianetti, le manager de son équipe, associé par le passé à des affaires de dopage. Dans la case suspect figurent aussi Primoz Roglic et son équipe Jumbo-Visma, comparé par l'ancien maillot jaune Romain Feu à des éléphants volants. C'est vrai que voir le très peu sympathique Wout Van Aert, 78 kilos sur la balance, gagner deux sprints massifs puis imposer un gros tempo dans les color catégories, ça peut surprendre.
Alors qu'en disent les autres coureurs de ce tour ?
Que ceux qui gagnent sont plus forts ou plus en forme. En tout cas, il faut rappeler que le tour est cette année l'une des premières courses de la saison. Les coureurs sont plus frais. En fonction des régimes de confinement appliqués dans les différents pays, certains ont pu s'entraîner plus que d'autres. Et puis, le cyclisme est un sport mécanique. Les techniques évoluent et logiquement la vitesse aussi. C'est ce que nous dit l'Irlandais Dan Martin, ancien coéquipier de Pogacar et coureur réputé insoupçonnable en matière de dopage.
Je trouve que ça roule vraiment vite sur le plat, mais ça c'est aussi le vélo, il change beaucoup. Notre vélo il est beaucoup plus rapide cette année, il est beaucoup plus aérodynamique. Toutes les équipes travaillent sur ça maintenant, les vêtements, le casque, tout ça. On est tous équipés avec le bon matériel qui est testé au Superleap. Avant c'était que pour les chronos que les équipes faisaient ça, maintenant c'est pour tous les jours. Alors. Mais aussi, c'est le Tour de France, et comme d'habitude, il y a toujours beaucoup de véhicules devant le peloton.
Des véhicules, si vous n'aviez pas compris le bel accent de Dan Martin, qui par un effet d'aspiration permettent aux coureurs de gagner de la vitesse. Mais ça, c'est aussi vieux que le Tour.
Merci beaucoup Thomas Tseneger, Eric Chorin. Et on n'oublie pas évidemment Richard Rifono, qui vous a accompagné sur la partie technique pendant ce long périple de plus de 3400 km, si je me souviens bien. 3400 km à peu près.
Plutôt 5000 pour nous, du coup.
Oui, du coup, évidemment, pour vous, c'était beaucoup plus long. Et rendez-vous évidemment pour le prochain Tour de France qui partira de Brest fin juin 2021. Allez, le tour d'horizon de votre dimanche football à présent en version express parce qu'il y a beaucoup de sport ce soir, mais avec l'essentiel. Et d'abord, la Première Ligue scrutée à la loupe chaque week-end par notre correspondant Philippe Auclair. Bonsoir Philippe.
Bonsoir Christophe, bonsoir à tous et à toutes.
Du rouge et du bleu, pourrait-on dire, sur la grande affiche de cette deuxième journée. Le choc entre Chelsea et Liverpool à Stamford Bridge. Mais la couleur dominante, Philippe, c'était bien celle des Reds. Hein. Vainqueur 2-0 oui. du 100% Sadio Mané face à un adversaire qu'on va dire pas encore totalement au point.
Exactement, et un grand Sadio Mané, auteur d'un coup de tête absolument extraordinaire pour son premier but, également très très présent, très très astucieux sur le second, et une équipe de Liverpool qui a beaucoup impressionné avec les débuts de Thiago Alcantara qui est rentré à la pause. Une équipe de Chelsea par contre dont on s'attendait à ce qu'elle soit l'un des challengers pour le titre, mais qui a peut-être été en deçà des espérances, quelques blessés peut-être, mais aussi une équipe, franchement une équipe de Liverpool qui nous a séduit, Christophe, qui n'est pas favorite, curieusement, des bookmakers anglais. C'est Manchester City qui jouera demain soir, qui demeure le favori des parieurs et des bookmakers anglais. Mais franchement, le champion a fait très très belle impression. On parle de Sadio Mané, on pourrait aussi parler de Fabinho en défense centrale qui est superbe. On pourrait aussi parler de Mohamed Salah qui est en excellente forme. Et franchement, d'un champion qui nous paraît très très bien préparé pour préparer la défense de son titre.
Alors, Liverpool en forme, mais le leader ce soir, c'est Leicester. prolifique Foxes, hein, vainqueur de Burnley, 4-2. C'est quand même très très bien. Et très prolifique, vous me disiez, il y a énormément de buts marqués par les les Foxys depuis un petit moment déjà.
Absolument. Et on n'est qu'à 4 buts du record pour une journée de Première Ligue, alors qu'il y a encore 2 matchs à jouer.
Alors, du rouge aussi, mais du rouge bien pâle pour le premier match de la saison de Manchester United. Les Red Devils, c'était hier, se sont déjà pris les pieds dans leur tapis vert, du coup, d'Old Trafford. Ils ont chuté d'entrée à domicile face à Crystal Palace 3-1. Il y a des problèmes de défense, apparemment.
Oui, des problèmes de rapidité dans la défense, avec Lindelof et Maguire qui convainquent pas véritablement face aux flèches de Crystal Palace. Andros Townsend qui a marqué, mais surtout Wilfried Zaha, encore une fois, l'Ivoirien, 2 fois buteur hier, sur un penalty et également dans le jeu. Et une équipe de Manchester United qui a paru très très en deçà physiquement en particulier par rapport aux autres équipes qu'on a vues en lice ce week-end. Et je pense même à des joueurs comme Paul Pogba ou Bruno Fernandes qui avaient été franchement excellents lors de la fin de saison 2019-2020. Franchement, ils paraissent en retard sur le reste. C'est une équipe de Manchester United, mais à ma foi, qui fait une entame de ce championnat d'Angleterre qui n'est pas satisfaisante du tout. Il y a encore des renforts qui vont venir, mais les premiers signes pour Ole Gunnar Solskjaer ne sont pas nécessairement des plus encourageants.
Merci beaucoup, Philippe Auclair. J'ajoute à cela le carton quand même de Tottenham à Southampton. 5-2 avec un quadruplé du Sud-Coréen Song Heung-min. Demain, donc, les grands débuts, vous l'évoquez, de Manchester City à Wolverhampton et Aston Villa, le nouveau club du Burkinabé, Bertrand Traoré, face à Sheffield United. On enchaîne avec le dernier grand championnat à faire son retour ce week-end, la Serie A, ce qui nous donne l'occasion de retrouver avec grand plaisir Matteo Cioffi. Bonsoir Matteo.
Bonsoir Christophe, et bien retrouvé.
Plaisir partagé. On va commencer par la fin, Matteo, l'ultime match de cette journée inaugurale, la Juventus Turin face à la Sampdoria Gênes. Bon, bah, les champions d'Italie qui s'imposent assez tranquillement 3-0 pour les débuts sur le banc d'Andrea Pirlo.
Oui, tout à fait. Il y avait une grande curiosité de découvrir ce soir l'idée de football proposée par Andrea Pirlo à sa toute première absolue veste d'entraîneur. Eh bien, ces joueurs ont suivi ses consignes et respecté ce que leur technicien avait déclaré à la veille de cette rencontre face à la Sampdoria, c'est-à-dire contrôle du ballon et pressing très haut. Formule qui a bien réussi au bien connaître, la Juve s'est imposée 3-0, Kulusevski, Bonucci et Ronaldo les auteurs de but, et satisfait ses 1000 supporters qui ont eu droit de rentrer au stade et qui à la fin du match se sont levés pour applaudir. Pirlo, bien entendu, les nouvelles recrues, dont l'Américain Weston McKennie, très brillant ce soir, et surtout un joueur qui, la saison dernière, avait un peu dessus avec le maillot de la Juve, c'est-à-dire les Gallois, Aaron Ramsey, qui ce soir a montré d'être prêt à ressurgir et devenir un homme clé de cette nouvelle vieille dame.
Alors, les autres équipes parties, elles aussi, sur de bons rails avec une victoire, la Fiorentina, le Genoa et Naples. Le Napoli qui n'a pas tardé à faire une bonne affaire en allant gagner à Parme 2-0. Puis c'était surtout l'occasion pour Victor Osimhen, notre prix Marc Villain-Fouet 2020, de faire sa première apparition.
Oui, Christophe, début à grande allure pour Victor Osimhen, qui en une demi-heure a su changer le cours du match. L'homme qui vaut 80 millions d'euros et qui fait de lui le transfert le plus cher dans l'histoire du Napoli a montré tout de suite d'être prêt à mériter un rôle de premier rang dans le 11 de Gennaro Gattuso. Aujourd'hui, face à Parme, le Nigérien a eu le mérite de réveiller le jeu de son équipe qui, jusqu'à ce moment-là, s'était limité à contrôler la rencontre, mais sans vraiment inquiéter l'adversaire. 3 minutes après la rentrée sur le terrain de l'ancien Lillois, les Napolitains ont donc ouvert le score grâce au Belge Graham Mertens. Et 13 minutes plus tard, le capitaine Laurens Insigne a trouvé à son tour la voie du filet en frappant le ballon mal repoussé par le gardien de Parme. Napoli entame donc ce championnat avec 3 points à l'extérieur et se frotte les mains, car cette fois-ci à l'intérieur, lance un attaquant qui a eu besoin seulement de 30 minutes pour faire la une de cette première journée du calcio.
Merci beaucoup Matteo Cioffi en direct de Milan. La fin de la 4e journée de Ligue 1 avec parmi les matchs du jour ce soir, Marseille-Lille conclut sur le score de 1 partout. Le LOSC est 5e, l'OM 7e d'un classement dominé par Saint-Etienne qui a récupéré sa première place malgré son match nul à Nantes 2 partout. Montpellier a largement dominé Angers 4-1 et s'installe à la 3e place. Et puis à noter la bonne opération du Paris Saint-Germain victorieux à Nice 3-0 grâce notamment à Kylian Mbappé de retour après son isolement pour cause cause de tests positifs au Covid-19. On n'oublie pas la Liga qu'on évoquera seulement côté résultat avec la rentrée à oublier du Real Madrid, contraint de se contenter d'un 0-0 sur le terrain de la Real Sociedad pour ce premier match de la saison, d'un championnat toujours plus désireux d'investir des marchés porteurs comme l'Afrique. La Ligue professionnelle y a en effet déjà plus qu'un pied et compte bien utiliser la belle notoriété de la Liga sur le continent pour y entretenir une stratégie de développement très offensive. C'est un reportage de Pierre Chaperon.
Se développer, favoriser les échanges, grandir et devenir une référence, la Liga s'est établie dans plusieurs pays de la planète. L'Afrique ne fait pas exception, plusieurs bureaux se sont installés un peu partout sur le continent, mais la référence se situe à Johannesburg, en Afrique du Sud. Deuxième bureau créé à l'international en 2005. Son chef s'appelle Marcos Pellegrini, jeune, actif, originaire de Saragosse. Pour lui, le marché africain est très important, surtout qu'avec une augmentation de 73% de son audience à la télé lors de la reprise de la Liga en juin dernier, le championnat d'Espagne est un succès.
Pour nous, c'est une région clé parce que l'on voit qu'il y a beaucoup de potentiel de croissance à tous les niveaux, que ce soit d'un point de vue des projets sportifs, d'un point de vue commercial, du lifestyle, etc. Cette année, l'Afrique a été l'une des zones où l'audience télé a le plus augmenté dans le monde. En plus, il y a un élément important. Il y a des similitudes entre l'Espagne et l'Afrique dans la manière de vivre le football. C'est de la passion pure. Et puis l'Espagne est tellement proche du continent. Seulement 14 kilomètres nous séparent de l'Afrique.
Développer des centres de formation, favoriser la venue de joueurs, comme ce fut le cas avec deux footballeurs nigérians à Leganés, c'est l'un des objectifs de la Liga. La Liga qui, dernièrement, a proposé aux meilleurs joueurs de la Coupe de la COSAFA des moins de 20 ans, le milieu de terrain zambien Patrick Gondway, de venir s'entraîner plusieurs jours avec le club alors en deuxième division Numancia. D'autres projets comme celui-ci existent, comme le détaille Marcos Pellegrini.
Nous voulons créer ce type de projet dans la région parce que nous pensons qu'au final, ça nous donne de l'importance. Ça donne de l'importance à la région et bien entendu aux joueurs. Un projet similaire que nous avions en Afrique du Sud, c'est Future Champions, à travers lequel deux joueurs, une joueuse et un entraîneur sélectionnés lors d'un tournoi de 3 mois, sont venus pendant 10 jours pour s'entraîner et apprendre des clubs espagnols comme l'Espagnol, le Barça, le Betis et Séville, et en plus pouvoir profiter de différents matchs de la Liga. Pour la Coupe de la COSAFA des moins de 20 ans, nous avons débuté cette collaboration durant laquelle le meilleur joueur de la compétition, Patrick Gondway, était à Numancia durant une semaine pour faire des tests. Il est revenu, Numancia lui a offert un poste dans son académie. La seule chose est qu'il semble qu'il ait préféré continuer sa carrière professionnelle en Zambie.
Une collaboration qui existe aussi avec le football féminin, un axe de développement qui chaque année se révèle être très important pour la Liga sur son propre territoire, mais aussi donc en Afrique.
Dans le football féminin, nous avons des accords très forts depuis de nombreuses années. Avec la Coupe de la COSAFA, nous travaillons aussi sur le sujet. De fait, nous sommes en train d'analyser quelles options existent pour investir. En Afrique du Sud, notre directeur du football féminin a organisé, il y a moins d'un an, des ateliers de travail avec les autorités locales qui étaient en train de lancer leur championnat. La semaine dernière, un pays de la région nous a sollicité sur le thème. Et puis, par exemple, Thembi Kadlana, meilleure joueuse africaine 2018, vient de signer à El Bahr. La star namibienne Zenata Coleman est passée de Valence à Séville. Ce que je veux dire, c'est que nous avons les grandes stars africaines dans la Liga féminine, c'est-à-dire qu'elles peuvent nous aider à transmettre le message de ce qu'est la Liga et comment fonctionne la Liga.
Continuer de développer la marque par quelques actions que ce soit, c'est l'objectif de la Liga pour l'Afrique, un championnat d'Espagne qui développe son business sur le continent comme ailleurs. Il faut dire que la concurrence fait rage avec la première Ligue anglaise et son succès mondial incontestable. Comme d'autres marques, la Liga cherche d'autres ressources pour grandir et continuer d'être une valeur sûre de l'économie espagnole. Pierre Chaperon, Madrid, RFI.
Entrons maintenant dans la bulle du Disney Resort d'Orlando en Floride où la NBA poursuit ses finales de conférence. Une phase de cette drôle de saison déjà privée des Raptors de Toronto tenant du titre éliminé en demi-finale. Pour en parler avec nous, notre correspondant à New York, Michael D'Acosta. Bonsoir Michael.
Bonsoir.
On commence par la conférence Est avec le duel entre le Heat de Miami et les Celtics de Boston. Mal parti les Celtics mais qui se sont relancés après deux premiers matchs, il est vrai assez poussifs.
Oui, les Celtics qui se sont défaits au tour précédent des champions en titre, les Toronto Raptors, avaient très très mal démarré leur finale de conférence face aux Floridiens en perdant les deux premiers matchs de la série. Alors, ils ont été dépassés physiquement, complètement asphyxiés en défense par la bande à Jimmy Butler et Bam Adebayo lors des matchs 1 et 2. Mais Boston a réagi la nuit dernière en gagnant le match 3 et restant ainsi en vie. Alors ils ont été portés par un énorme Jason Tatum des grands soirs, 25 points, 14 rebonds, 8 passes. L'équipe de l'ailier nigérian Semi Ojeleye et du pivot sénégalais Taco Fall a réduit les cartes et se relance complètement dans cette série. L'énorme coup de gueule de leur capitaine Marcus Smart dans les couloirs après la seconde rencontre a payé et les hommes de Brad Stevens se remettent en scène. Côté Heat, à noter l'exceptionnel niveau affiché par le pivot américano-nigérian Idris Femi Bam Adebayo, auteur d'un contre monstrueux sur Tatum lors du match 2. Il est le pilier défensif de la franchise basée en Floride. Il a été élu dans le meilleur 5 défensif de la saison il y a quelques jours et a été All-Star en février dernier. Donc ce sera l'un des joueurs à suivre, l'une des clés de la réussite pour Miami.
On passe à l'Ouest, Michael, où la finale n'en est là qu'à ses débuts. Parfaitement abordée par les Lakers de Los Angeles avec un succès sur les Denver Nuggets dans le match inaugural de la nuit de vendredi à samedi. L'équipe de LeBron James a l'air d'avoir pour l'instant pris la mesure des hommes du Colorado, mais méfiance tout de même.
Oui, méfiance tout de même, car les Nuggets ont tout de même inversé la vapeur lors des deux tours précédents face aux Utah Jazz de Rudy Gobert et face aux Clippers de Los Angeles de Kawhi Leonard et de Paul George. Ils ont été menés 3 manches à 1 lors de ces deux premières confrontations et les Nuggets ont déjoué les pronostics, ont effectué 2 remontadas pour marquer l'histoire et s'imposer 4 manches à 3 et gagner leur ticket pour les finales de conférence. Les Lakers sont prévenus et la bande de LeBron James et Anthony Davis ne devra pas baisser de pied pour battre Jamal Murray, Nikola Jokic, le jeune pivot sud-soudanais Bol Bol, pour ainsi accéder au final NBA. Lors du match 1, les Angelinos ont montré toute leur force en défense, mais aussi par leur attaque ultra efficace. 7 joueurs à plus de 10 points. Le match 2 aura lieu la nuit prochaine.
Alors voilà pour le point sur le show, on va dire. Concernant maintenant l'actualité de la saison des joueurs qui ont déjà fini, qui sont aux courses, on s'arrête un instant sur le cas de Joel Embiid en vacances forcées avec Philadelphie depuis qu'ils ont été balayés 4-0 par les Celtics au premier tour de ces playoffs. Est-ce que ça sent pas un peu la fin de l'histoire avec les Sixers?
Alors Embiid est poussé vers la sortie à Philadelphie après que son équipe se soit faite éliminer 4-0 face aux Celtics de Boston. Alors la star camerounaise peut-elle quitter son équipe? La question se pose après le renvoi du coach Brett Brown, celui qui l'a fait venir il y a 6 ans. Plusieurs médias annoncent des tensions dans les vestiaires et les coups d'éclat d'Embiid ne suffiraient plus à lui assurer son avenir à Philadelphie. Sa condition physique également, pas toujours optimale, certains écarts de comportement, mais aussi un manque de leadership. Joel Embiid est critiqué, mais se défend un petit peu comme d'habitude sur les réseaux sociaux. Le troller Embiid, comme il se fait appeler depuis quelques jours, n'a pas fini de faire parler lui. C'est donc une affaire à suivre.
Et on aura bien évidemment l'occasion d'en reparler dans un prochain Mondial Sport. Merci beaucoup Michael Dacosta en direct de New York. J'ajoute que le meilleur joueur de la saison régulière et pour la deuxième saison consécutive, Giannis Antetokounmpo, l'ailier des Bucks de Milwaukee. Il est également sacré meilleur défenseur. Ça paraissait complètement impensable en France il y a encore un an, mais ça y est, les arts martiaux mixtes, autrement dit le MMA, vont pouvoir officiellement se donner en spectacle le 10 octobre prochain et pas n'importe où, à Bercy, une enceinte accessible à seulement 5000 spectateurs, mesures sanitaires liées au Covid oblige, 5000 privilégiés pour une première grande soirée de 13 combats, plus 3 autres de boxe anglaise, avec en tête d'affiche le français Cheikh Kongo, vétéran de cette discipline officiellement légalisée dans l'Hexagone depuis janvier et placé sous l'autorité de la Fédération française de boxe. Le promoteur de cette première sera l'organisation américaine Bellator, sans doute pas mécontente d'avoir brûlé la politesse à l'autre grand du secteur, l'UFC. Mais au-delà de ce joli coup, c'est le MMA lui-même qui doit en profiter sur ce marché porteur, comme l'explique Paolo Bocotti. Il est le vice-président Europe de Bellator, joint cette semaine par visioconférence.
C'est super important, pas seulement pour nous, mais je pense pour tous les sports de contact. Il y a une tradition de boxe anglaise incroyable en France, il y a une tradition de sport de combat. On pense vraiment que la France peut être un des pays, si pas le pays, où il y aura les plus forts combattants européens. Nous avons déjà Cheikh Kongo qui va boxer et beaucoup d'autres Français qui vont annoncer. On est sûr que le Français peut montrer à le monde entier, parce que comme vous savez, on serait live dans 160 pays dans le monde entier. On est sûr que les combattants sont prêts. Ils sont vraiment de très très bons combattants. Avec la Fédération française de boxe anglaise, nous avons vraiment très très bien travaillé sur tous les projets MMA à partir du mois de janvier pour bien mettre les règlements en place et être approuvés par le ministère des Sports. C'est clair que dans cette pandémie, c'est aussi encore plus difficile, mais comme peut-être pas beaucoup de personnes connaissent, mais le propriétaire de Bellator, c'est Viacom CBS. C'est une grande entreprise de communication et de production télé. Donc, nous avons beaucoup de personnes qui travaillent sur ça. Nous avons aussi une task force qui s'était créée entre l'Europe, Londres, New York et Los Angeles pour mettre en place des protocoles sanitaires qui sont encore plus durs de ce que normalement les pays demandent.
Concrètement, la jauge sera donc limitée en France à 5000 personnes. Le MMA, par définition, c'est un sport de contact. Est-ce qu'il y a des mesures de précaution particulières qui seront prises pour les combattants et
Pour 100%. Nous, on va créer un boule des personnes qui arrivent, de toutes les personnes qui travaillent, sauf les combattants, toutes les personnes qui travaillent dans Bellator seront emmenés à l'hôtel, ils feront un test PCR dès qu'il arrive et restent dans la chambre pour 24 heures jusqu'à ce que le test donne son résultat. Dès qu'on a les résultats, il peut sortir, mais pas de l'hôtel, seulement des étages qui sont réservés par nous et l'entraînement. Après ça, on a un hôtel très très proche de la Core Arena et tout le monde sera transporté avec des minibus personne par personne à la Core Arena et sera en red zone accessible seulement à les personnes à l'intérieur de la boule. Pour tous les combattants, tous les arbitres et tout le monde, il y aura aussi un autre test le jour de la pesée. Donc tout le monde sera testé deux fois avant de faire son travail.
La légalisation du MMA et ce premier grand événement vont donner enfin l'occasion au MMA de changer un peu son image. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux détracteurs de ce sport ? Qui disent qu'il n'y a pas beaucoup de règles, que c'est très violent.
Nous, on dit que violence, c'est violer les règles. Et c'est exactement le contraire de notre sport. Il y a un arbitre, il y a des règles très, très dures qu'il faut respecter. Il y a un arbitre, quand l'arbitre dit stop, tout le monde s'arrête. Donc, ce n'est pas violence, c'est un sport agressif, c'est un sport de contact. Et je pense que le monde entier peut voir combien de personnes des sports comme le MMA ou comme la boxe anglaise, ils ont aidé des personnes qui normalement restent dans la rue à être au contraire avec un maître qui peut bien donner des enseignements à tous ces gars.
Le MMA est donc placé en France sous l'autorité de la Fédération française de boxe. Est-ce que vous êtes obligé de vous adapter à des règlements particuliers ou alors ce sera exactement la même chose que...
Alors, c'est clair que nous, on va s'adapter, mais il n'y a vraiment pas beaucoup de différence parce qu'ils ont vraiment pris tous les conseils que les acteurs de MMA ils ont donné. Les règlements sont les règlements internationaux MMA, soit pour l'amateur, soit pour les professionnels. Et je pense que la Fédé, il a fait un super travail aussi pour bien gérer les amateurs qui, chaque jour, doivent faire des combats avant de devenir professionnels. Malheureusement, plusieurs fois, il y a des combattants qui deviennent professionnels sans aucune expérience. Ça, c'est quelque chose que c'est vraiment très, très bien géré par la Fédé.
Alors, il y a un combattant qui a vraiment de l'expérience, et le moins qu'on puisse dire, c'est Chef Congo, qui sera derrière donc, l'affiche le 10 octobre. C'est un vétéran, il a 45 ans. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu ce combattant ?
Chef, c'est un super combat. Il a déjà combattu avec son adversaire une fois, il a déjà battu. Donc, je pense que pour la première fois en France, il faut quelqu'un d'expérience comme lui. Il a 45 ans, mais tout le monde peut voir qu'il est vraiment en super bonne condition physique et je pense qu'il faut être là pour le voir, pour bien comprendre ce que du bien fait le MMA comme sport à tous ces combattants.
Paolo Bocotti, le vice-président Europe de Bellator chez Congo, affrontera l'Américain Tim Johnson lors de cette soirée du 10 octobre, dont on vous reparlera évidemment le moment venu. Une petite info en bref avant de se quitter en tennis. La qualification de Novak Djokovic pour la finale du Masters 1000 de Rome, et ce pour la 10e fois de sa carrière. Le numéro 1 mondial a écarté en demi le Norvégien Casper Ruud en deux manches 7-5-6-3 et affrontera l'Argentin Diego Schwartzman, tombeur du Canadien Denis Shapovalov en 3-7 à l'issue d'un match de plus de 3 heures. La finale féminine, elle, à Rome, opposera la Roumaine Simona Halep et la Tchèque Karolina Pliskova. Voilà, Mondial Sport envoie tout le monde au vestiaire pour ce soir et pour toute la semaine. Merci à Hélène Avril et Jean-Philippe Thury pour la réalisation. Si vous êtes arrivé en cours de route, séance de rattrapage dans quelques minutes sur le site RFI.fr et via l'appli RFI Pure Radio. Dans un instant, 24 heures en France. Bonne soirée.